Tout de suite après, on a notre première table ronde, écrire sur la musique de jeu. Je vous cache pas que c'est la table ronde qui en fait, en tout cas, que c'est le thème qui a un peu inspiré la thématique du festival de cette année, puisque c'est en parcourant les ouvrages de nos auteurs qu'on a pensé à ce beau thème. Donc la table ronde regroupe Fanny Rebillard, que je ne vous présente plus, musicologue et archiviste spécialiste de la musique dans les jeux vidéo, Jérémy Kermarek, fondateur de Square Music, site consacré à la musique de jeu, Aurélien Simon, auteur spécialiste de la musique pour l'image, et Damien Méchery, auteur et éditeur chez Third Editions. Elle sera animée par Pierre Maugin, qui est journaliste spécialisé, qui travaille notamment à Gamekult, Canard PC et JV Le Mag, et j'en profite pour remercier chaleureusement JV Le Mag, qui est notre partenaire sur le festival et qui vous propose des exemplaires du dernier JV. Vous les retrouvez à l'entrée et à la sortie de cette petite salle. Merci encore et à vous.
Bonsoir à tous. Enfin, bonjour à tous même. Donc on va commencer donc le tour de table est fait, donc on peut directement y aller. Alors, on va commencer donc à parler donc de l'écriture en fait de la musique de jeux vidéo. Donc l'écriture, comment on raconte en fait la musique de jeux vidéo par l'écriture, et ce qui est compliqué de base parce que la musique est dure à expliquer sans support en fait. Sans support auditif à côté, sans support de partition. Et c'est vrai qu'en plus, la musique de jeux vidéo a une spécificité, c'est que par rapport à d'autres types musicales, elle a une interactivité. C'est-à-dire qu'elle se déroule en fonction des événements, elle fluctue, elle varie. Et c'est vrai que c'est difficile en fait, d'essayer de la saisir en entier, surtout que c'est une musique qui a une vraie histoire, en fait, qui a commencé avec des musiques assez simples, avec des sinusoïdes, avec des musiques vraiment limite c'est des musiques électroniques. Et comment en fait en écrivant sur la musique de jeux vidéo, vous arrivez à saisir en fait tout ce prisme là? Et est-ce que vous préférez justement partir sur un historique? Est-ce que vous préférez parler de la musique de jeux vidéo dans son évolution maintenant plus orchestrale et plus travaillée? Et comment en fait vous percevez ce prisme et comment vous en parlez?
En fait, justement, c'est très important de définir à la base le cadre dans lequel on va aborder la musique de jeux vidéo. Quand j'ai écrit le livre VGM, donc Histoire de la musique de jeux vidéo, l'idée était justement d'avoir une approche générale sur qu'est-ce que la musique de jeux vidéo. Le sous-titre est un peu trompeur du livre. Histoire de la musique de jeux vidéo, c'est pas juste l'histoire chronologique de comment la musique de jeux vidéo a évolué au fil des ans, c'est comment elle a évolué formellement, comment elle a évolué philosophiquement même en fait, et qu'est-ce que la musique de jeux vidéo en soi. Déjà définir que ce n'est pas justement, Fanny en parlait un petit peu dans l'entretien avec Anne, ce n'est pas justement un genre à part entière, mais c'est plutôt un support dans lequel on peut amener tous les genres musicaux. C'est simplement qu'est-ce qu'on va en faire de ces genres musicaux, comment on va les intégrer dans l'expérience de jeu. Donc c'est le premier truc à vraiment définir, à expliquer en fait à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo, qu'est-ce que l'interactivité, quel est le rapport qu'on va entretenir, nous, avec la musique en fonction de ce qu'on fait en tant que joueur, et comment ça s'est transformé au fil, non seulement des années, mais aussi au fil des genres de jeux eux-mêmes, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de façons différentes d'écrire de la musique de jeux vidéo, de l'intégrer au sein de l'expérience de jeu. Donc c'est vraiment un aspect assez important de base d'englober le tout. Après, parler de la musique de jeux vidéo, à la base, ça était avant tout, pour ma part en tout cas, je sais que c'était le cas aussi notamment de Jérémy, probablement d'Aurélien et de Fanny, de transmettre une passion. Ouais. En fait, Kayane en parlait elle-même, elle a été touchée quand elle était enfant, ça a été notre cas aussi. On a tous été émus à un moment ou à un autre par la musique de jeux vidéo, et ça a été une épiphanie qui fait qu'on a eu envie d'en parler de diverses manières. Et Jérémy, je me retourne vers toi parce que tu es un peu au départ de tout ça, même vis-à-vis de moi. C'est que tu avais donc fondé ton site Square Music, qui était consacré justement aux compositeurs de Square à la base, même tu avais un peu étendu à d'autres compositeurs, essentiellement consacrés à la musique de jeux de rôle japonais. Et l'idée était de les présenter à la fois donc, qui étaient ces gens qui écrivaient la musique de jeux vidéo, quelle était leur vie, quelles étaient leurs formations. Tu mettais des extraits d'interviews traduits et tu faisais des chroniques d'OST. L'idée était en fait de simplement parler des albums de musique de jeu et d'exprimer avec passion pourquoi ces musiques te touchaient. Pourquoi et à quoi ressemblaient aussi les musiques. Donc c'est un exercice assez ingrat en fait, hein, la critique piste par piste d'un album de musique de jeux vidéo, surtout quand c'était des albums sur 3 à 4 CD. Donc on lit piste par piste, ah ouais, celle-là, cette musique est vachement bien, celle-là, non, et tout. Et à un moment, on se disait, c'est quand même assez flou, et surtout, c'est un peu, bon, qu'est-ce qu'on en retire finalement en tant qu'expérience. Et pourtant, À l'époque, moi j'avais, je crois, 13 ans, 12-13 ans, Square Music, c'était en 2000, Square Music, c'est ça ?
2000-2001, oui.
Ouais, donc c'est ça, donc 14 ans. Il y avait cette passion qui était transmise et l'envie derrière aussi de la transmettre, de faire la même chose, d'écrire des chroniques d'albums de musique de jeu ou de l'album de musique de film, puisque c'était quelque chose qui se retrouvait déjà pas mal dans les revues spécialisées sur le cinéma, des chroniques d'albums de musique de film, depuis quelques années déjà. Mais dans la musique de jeu, c'était encore tout nouveau. On en parlait sur des forums. On essayait de trouver les meilleurs moyens de pouvoir les écouter parce que, bah, effectivement, en France, on n'avait aucun moyen légal de se procurer vraiment les albums. Il y avait des boutiques parisiennes qui vendaient des contrefaçons. Donc, du coup, on s'était retrouvés à acheter tous des contrefaçons. Et voilà, il y avait tout un truc qui se mettait petit à petit en place. Et à ce moment-là, on conscientisait pas du tout en fait cette idée de comment parler de la musique de jeu, on avait juste envie de le faire et on partageait. Et comment t'es venu toi, Jérémy? Parce que moi je sais que c'est parti de toi entre autres, cette envie de la partager de la même manière avec ce format là spécifique qu'on a fait évoluer par la suite. Toi, d'où c'était venu?
T'as parlé de passion et je pense que c'est difficile de le résumer mieux en fait, c'est purement par passion. Après le principal problème c'était un travail ingrat comme tu le dis. Principalement parce que personnellement, j'ai aucune formation musicale. Déjà. Donc c'était uniquement du ressenti, en fait. Oui. Encore une fois, j'avais le même âge que toi, je crois qu'on est les mêmes années. Donc j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à faire des critiques où effectivement, je décrivais chaque musique une par une dans une bande originale. Alors si c'est Final Fantasy VII, par exemple, oui. On a 80 musiques commentées une par une.
Avec des notes à chaque musique.
Avec des notes. Xenoblade 3, du coup.
Ah oui, quand c'était FF9 où il y avait 150 musiques, là, voilà. Donc c'était du pur ressenti. Sans, en fait, on était confronté dans ces bandes originales-là avec une, surtout dans Final Fantasy, une multitude de styles et d'approches très différentes les unes des autres. Et on n'est pas doté quand on a 14 ans et qu'on n'est pas du tout, quand on n'a fait aucune étude de musique, on n'est pas doté pour les commenter de manière correcte, en disant ça vient de là, ça a été inspiré par Nobuo Uematsu, par tel genre musical de tel pays, parce qu'il aimait bien ça à l'époque. Donc c'était de la pure passion, se dire ça ressemble un peu à ça. Parfois c'était cliché, honnêtement j'aurais honte de relire ça aujourd'hui. Hein, ouais,
bah, c'est tu évident. M'étonnes.
Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas raison d'avoir honte d'avoir voulu partager un plaisir.
C'était un simple plaisir de
mélomane en fait, et on a le droit d'être mélomane, de juste d'aimer la musique sans savoir forcément l'analyser. Enfin, j'espère qu'on a le droit. Sinon, je m'en vais. Hein.
Je pense que c'est quelque chose qui a été un jalon extrêmement important dans l'écriture autour de la musique, parce que j'ai envie de dire parfois pour savoir qu'on peut écrire sur un sujet, il faut aussi voir d'autres gens s'exprimer dessus et se dire ah tiens, moi aussi j'ai des choses à dire. Et c'est vrai que moi je me rattache à vos deux parcours étant arrivé un petit peu après, puisqu'en 2000 j'avais 10 ans, je savais pas qu'Internet ça existait encore. Et du coup, j'ai connu ce jalon où j'ai pu dire, mais tiens, on peut écrire sur la musique de jeu, où je me suis retrouvée au lycée, je me disais, on a un exposé à faire parce que j'ai option musique au bac, je vais choisir la musique de jeu et je vais écrire quelque chose, tant pis, si je copie-colle une page Wikipédia, j'aurais déjà essayé ça. Et puis après, arriver en musicologie, commencer à découvrir le fait que, déjà, de toute façon, l'étude de la musique, ça n'est pas que l'étude de la musique classique, donc réfléchir au fait qu'on peut avoir des choses à dire historiquement, mais aussi stylistiquement sur la musique de jeu. Et du coup, de fil en aiguille, réussir à imposer un sujet de mémoire sur la musique de jeu, ce qui n'est pas toujours évident à l'université où ça peut être extrêmement cloisonné. Et du coup, pour en aboutir à écrire un livre, justement, qui n'est pas juste une approche générale pour faire un peu reconnaître le sujet, montrer qu'il y a déjà pas mal de bases à poser dessus, mais véritablement un livre qui est spécialisé dans un sujet. Là, c'était le cas de mon livre, dont tu as été l'éditeur, Damien, je le rappelle. Donc, tu as travaillé très près avec moi et ça a été des questions qui ont été faites, qui ont été parcourues dès le début, à savoir de quoi on va parler, comment on va en parler. La question, tu parlais de partition, Pierre, un petit peu plus tôt. Donc là, on a fait le choix de commencer à intégrer des petits morceaux de partition. Et je pense que peut-être que toi, Aurélien, tu as eu une approche un petit peu similaire, c'est-à-dire de voir tous les livres qu'il y avait autour de la musique de jeu, tous les articles qui s'écrivaient, et puis d'avoir cette idée de pousser vraiment un sujet, parce que le sujet de ton livre est quand même très pointu.
Oui, moi en fait, à la base, je viens de la musique de film. Donc, j'ai fait des études de cinéma, j'ai analysé des musiques de film pendant des années, j'ai écrit sur la musique de film. Et en parallèle, j'ai toujours un peu aimé aussi la musique de jeux vidéo. Donc, quand je me suis intéressé, quand j'ai vraiment eu le déclic de me dire il faut que j'écrive un truc sur la musique de jeux vidéo, c'est quand je me suis rendu compte à quel point on avait très peu de connaissances sur le domaine. Il y avait très peu de livres. Il y avait le livre de Damien qui existait. Il y avait quasiment rien qui s'écrivait. Il y avait quelques passionnés comme toi qui écrivaient aussi en parallèle. Mais il n'y avait rien de vraiment très poussé. Et donc du coup, moi j'ai amené ce que j'avais appris sur la musique de film, c'est-à-dire parler, pas non en termes techniques, mais plutôt en ressenti, comme toi, en fait par passion, parce que moi non plus je ne suis pas musicien. Donc moi j'ai appris à analyser esthétiquement un film. Donc j'analyse la musique de la même façon. Qu'est-ce que je ressens ? Après j'essaye de m'accrocher aussi à des choses très concrètes, comme les thèmes. Quel thème appartient à tel personnage, à tel stage, comme disait Kayane, à tel environnement, etc. Et essayer de démontrer comment la musique soutient l'image, comme d'habitude, hein, comme en musique de film, mais soutient aussi l'expérience vidéoludique. Ça, c'est un truc qui est en plus de la musique de film. Pour expliquer tout ça, je pense que pour pouvoir en parler correctement, je pense qu'il fallait revenir vraiment aux fondamentaux, puisqu'il n'y avait quasiment rien de fait sur le sujet. Donc je me suis dit, il faut remettre tout à plat, il faut essayer de raconter, d'explorer l'histoire profonde de la musique de jeux vidéo. Comment elle a commencé dans les années 70, comment elle a évolué de simple bip à des choses beaucoup plus complexes, à du synthétiseur, à de l'orchestre symphonique, à du rock, à tous ces genres que Kayane a passé en revue en disant très bien qu'il y avait plein de genres différents dans la musique de jeux vidéo. Et à partir de là, une fois que je m'étais lancé dans l'exploration, j'ai tiré le fil et puis j'ai vu tout ce qui pouvait en sortir.
Et justement, pour vous, quel est le meilleur support justement pour en parler ? Parce que c'est que l'écrit, c'est limitant, en fait, en termes de... Vous parliez justement de ressenti, de manière de décrire la musique comme vous décrivez un tableau, par exemple, ou une scène de film. Mais est-ce que justement maintenant, notamment par rapport aux réseaux sociaux, et justement Fanny a fait des très bons fils sur la musique de jeux vidéo, est-ce que pour vous, c'est un nouveau type de média ou une nouvelle manière d'en parler qui peut justement aider, en fait, avec des exemples, avec peut-être une manière de procéder plus pédagogique ou plus didactique ?
Une manière de procéder en tout cas qui est plus limpide, je pense, puisque forcément quand on a un support audio en fait comme extrait, on peut aller beaucoup plus loin, en tout cas dans la démonstration technique précise de moments spécifiques, parce que Fanny parlait des extraits de partitions qu'on a mis dans la musique de Zelda, c'était le meilleur moyen de présenter visuellement, puisque parfois même si on connaît rien à la musique, en fait l'idée était que quelqu'un qui ne connaît rien à la musique comprenne pourquoi tu mettais ces extraits de partitions.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a rajouté pas mal de petites notes ou même tout simplement des encadrés pour montrer les motifs qui se répètent afin que les personnes qui ne sont pas musiciens puissent quand même avoir une idée de la façon dont ça se structure.
Exactement. Et ça, c'est une manière de procéder qui me semble assez intéressante. De toute façon, à partir du moment où on est limité par le support écrit, il faut de trouver des manières de contourner la chose et de rendre ça à la fois accessible et en même temps pointu. Mais si tu parles des autres supports, Pierre, pour moi, le plus intéressant... En tout cas, le plus accessible, ça reste le support vidéo. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a par exemple... Alors, ce n'est pas sur la musique de jeux vidéo, c'est sur la musique de film. Mais le YouTuber qui s'appelle Tilou, qui justement analyse la musique de film en présentant les extraits de partition avec les sons en temps réel. C'est-à-dire qu'il va rejouer, lui, alors, comme c'est un musicien, il va rejouer avec ses instruments, ou je ne sais pas s'il programme ça sur un synthé. Il va mettre la partition qui va s'afficher et chaque note de musique va s'activer pile poil au moment où il monte l'extrait. Donc, on peut vraiment comprendre de quoi il parle quand il parle d'une technique musicale spécifique, de quoi il parle quand il parle d'un thème spécifique qui est repris de telle manière qui est caché dans un autre thème, etc. Donc c'est vraiment un support qui est très intéressant pour parler de musique de film et donc par extension de musique de jeux vidéo, puisqu'en plus en musique de jeux vidéo il faut aussi parler du rapport à l'image et le rapport à l'interactivité, donc on le disait, ça on peut mettre des extraits de jeux, on peut faire manette en main. Évidemment, dans tous les cas, le meilleur moyen d'expérimenter la musique de jeux vidéo, ça reste par soi-même. C'est-à-dire de manière consciente, on lance une partie de jeu et on essaie de comprendre comment la musique fonctionne. Et ça, on peut avoir l'appui aussi, évidemment, de sources extérieures, comme les interviews de compositeurs, mais ça, on y reviendra après. Mais En fait, simplement, c'est que chaque support, chaque manière de parler de la musique de jeu vidéo a ses propres spécificités et demande un exercice en fait, de réflexion et, qui est différent. Et je pense que dans l'absolu, toutes les approches sont complémentaires.
Oui, c'est vrai qu'en fait, pour parler de musique, on ne va pas du tout approcher de la même manière un podcast, une vidéo ou un article. Moi, ce que j'aime justement dans les fils Twitter, c'est que tu peux mélanger un petit peu tout. C'est-à-dire que tu peux faire écouter, tu peux montrer et tu peux en même temps écrire. C'est pour ça que c'est une frustration que j'ai souvent en podcast, c'est que tu parles de la musique, en même temps tu peux pas tout à fait la passer en même temps, parce que sinon tu parles par-dessus, ou alors tu repasses et puis au milieu du morceau tu te dis « vous voyez, c'est là ». Donc c'est forcément pas très agréable à l'écoute. Alors qu'avec un fil Twitter, tu peux... J'avais fait ça par exemple dans le fil sur le sound design dans Skyward Sword, dans Zelda Skyward Sword, où on voyait, où je voulais montrer comment ils avaient un peu randomisé en fait, le sound design de manière quasiment musicalisée. Et là, justement, je m'étais servi à la fois de l'écrit pour décrire. J'avais pris des extraits vidéo de mon côté pour pouvoir montrer en conditions réelles ce qui se passait quand on donnait plusieurs coups d'affilée. Et puis pour pas non plus mettre 25 vidéos de moi en train de taper contre un bouclier, j'avais fait des relevés sur partition pour montrer les différentes combinaisons de notes qu'on pouvait avoir. Et donc c'est vrai qu'au format écrit livre, on a difficilement le moyen de faire ça, à moins de mettre des QR codes pour que les gens puissent scanner et accéder aux fichiers, mais ça pose des petits problèmes de droit d'auteur, donc on ne le fait généralement pas. Mais c'est vrai que c'est, quand on veut parler vraiment techniquement de la musique, un petit peu un mélange hybride écrit, oral, vidéo, c'est généralement ce qu'il y a de mieux.
Et justement, en fait, c'est quand même un domaine qui est assez peu connu justement par le grand public, enfin, tout au moins peut-être des générations d'avant nous. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que tout le monde a entendu parler des bip-bip du jeu vidéo en fait, sans vraiment aller plus loin dans l'analyse. Et est-ce que pour vous, il y a justement un travail de vulgarisation à faire, par l'écrit notamment, et sur quel axe vous partirez justement pour essayer de faire comprendre et de faire connaître aux gens la musique de jeux vidéo et comment leur faire vraiment comprendre que c'est un vrai média, c'est quelque chose de nouveau et surtout d'ouvert en fait. C'est-à-dire que maintenant il y a quand même beaucoup de mélange entre la musique classique et le jeu vidéo.
Peut-être de faire un festival à la BPI qui s'appellerait Prestart.
C'est pas mal ça, c'est très bonne idée.
Non, mais sinon, ce que j'avais beaucoup apprécié dans ton livre, Aurélien, c'est que tu as pris le prétexte de la question de la symphonie, de la musique symphonique ou orchestrale, pour dérouler et expliquer déjà en quoi c'était pas une notion très simple et comment ça a été contourné, exploité, comment ils ont réussi à bidouiller. Enfin, t'en parleras sûrement mieux que moi, mais je pense que le travail de vulgarisation que tu as fait autour de ça était très intéressant dans ton livre.
Bah, merci. En fait, comme la musique de film, quand elle a commencé, le cinéma a voulu s'accaparer un genre noble, la musique symphonique, la musique qui venait de Vienne, avec tous ces compositeurs qui étaient arrivés à Hollywood et qui étaient prêts à utiliser leur savoir vraiment en musique véritablement symphonique pour rendre la musique de film noble et rendre le cinéma noble également. Et je pense qu'il s'est passé un petit peu la même chose en musique de jeux vidéo. Je pense qu'il y a eu une envie dès le départ, en fait, dès les premiers jeux vidéo, les créateurs ont voulu un peu anoblir leur art, même s'ils ne le considéraient pas comme de l'art à l'époque, mais en tout cas, ils avaient vraiment l'impression de créer quelque chose. Et je pense qu'ils ont été attirés dès le départ par quelque chose de noble musicalement, et qui ne leur déplaisait pas d'ailleurs. Hein. Donc ils ont utilisé au départ, souvent avec des sons synthétiques, donc des puces électroniques, ils ont utilisé des morceaux classiques en disant, voyez, quand même le jeu vidéo, c'est on peut utiliser de la musique classique dedans, on peut vous faire écouter, je sais pas, du Chopin par exemple, parce que j'en parle un peu dans mon livre, et d'un seul coup ça a donné du crédit à cet art naissant qui était vraiment balbutiant encore à l'époque et qui pourtant avait envie de devenir quelque chose de très culturel, de très noble. Il y avait comme une sorte de d'envie enfouie. Et je pense que c'est pour ça que la musique de jeux vidéo a pris très rapidement le chemin du symphonique, comme je l'explique.
Il y a d'ailleurs un phénomène intéressant qui s'est passé au Japon sous l'impulsion de Koichi Sugiyama, qui était un compositeur symphonique. Avant de commencer à travailler en jeu vidéo, il était déjà assez âgé quand il a commencé à travailler sur Dragon Quest en 1986. Il devait avoir la cinquantaine, je crois. Et lui, il a tout de suite pris ça au sérieux, en fait. C'était pas du tout des jouets ou des choses élémentaires. Il a tout de suite écrit une musique, évidemment, qui était limitée par les sons de la console, qui était la NES à l'époque. Mais il l'a pris au sérieux. Il a fait rapidement après des concerts de musique symphonique, qu'il appelait d'ailleurs les Family Concerts, parce que ça s'adressait autant aux parents qu'aux enfants. Ils venaient voir de la musique classique et il y avait une partie musique Dragon Quest qui était jouée par un orchestre. Et je sais que Nobuo Uematsu, notamment, l'a dit ça, que pour lui, il n'a pas été directement influencé par Sugiyama en tant que musicien, mais il a été influencé par le sérieux avec lequel il a immédiatement considéré la musique de jeux vidéo, à une époque où c'était honnêtement encore considéré comme quelque chose d'accessoire. Et Uematsu dit qu'il pense qu'avec Dragon Quest, avec Zelda aussi, parce qu'il pense que Koji Kondo a aussi autant pris au sérieux la musique tout de suite, et ben ça a créé, dans une décennie où on aurait pu croire que la musique électronique, qui était quand même la décennie 80, c'était la décennie de l'électropop, on aurait pu croire que c'était ça qui allait prendre le dessus. Et en fait, non, ça a été pris tout de suite au sérieux par ces compositeurs qui en ont fait très rapidement des concerts symphoniques. Et à mon avis, ça a joué un rôle très important au Japon pour légitimer la musique de jeux vidéo qui, dès les années 90, était vraiment prise au sérieux, sortait en CD, donnait lieu à des concerts, des grands concerts symphoniques.
Effectivement, même dans la série Zelda, dès le tout premier épisode, il y a eu des arrangements, des albums arrangés qui sont sortis. Et puis Koji Kondo, on a aussi énormément parlé en interview du fait que c'était même pas tant lui qui prenait ça au sérieux que les équipes qu'il avait avec lui, qui lui donnaient la possibilité. Et par exemple, il racontait aussi ses rapports avec Shigeru Miyamoto, qui est donc le créateur à la base de Zelda, qui ne lui laissait pas une minute de répit quant au sound design, et qui du coup, au niveau de la musique, était également extrêmement exigeant dans ce que ça devait laisser transparaître aux joueurs, dans la manière dont ça devait l'accompagner. On sait bien que Miyamoto, c'est quelqu'un qui était même un peu anti-narratif d'une certaine manière, vu que lui, ce qui l'intéresse, c'est le fun, le côté ludique du jeu et ne pas coincer le joueur dans des cinématiques à rallonge. Donc il fallait que la musique suive d'une certaine manière, ou au contraire qu'elle permette de construire une narration au fur et à mesure. Du coup, voilà, il y a eu quelques créateurs qui, dès le départ, en fait, ont vraiment réfléchi à ce que la musique pouvait apporter au jeu. Et c'est vrai que ça, c'est des choses déjà qui sont importantes à soulever.
Et justement, on parlait de compositeurs, mais est-ce que pour vous, c'est justement ça peut être aussi une approche, en fait, pour parler musique de jeux vidéo, c'est-à-dire de plus que de parler justement de la construction des mélodies, parler justement d'où elles viennent et qui sont les gens derrière et qu'est-ce qu'ils ont infusé dans ces musiques-là, et justement par leur carrière à eux et par leur manière de percevoir la musique du jeu vidéo, peut-être en faire un historique ou le faire mieux comprendre justement aux gens en face de vous.
Jérémy.
En tant qu'auteur de la biographie de Nobuo Uematsu, avec Denis Fontanarosa, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement parce qu'il est à l'autre bout du monde.
On le salue
chaleureusement. Et bien évidemment, là, c'est une biographie de compositeur, donc on ne peut pas faire l'impasse sur la partie humaine, en fait. Et moi, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que des choses qu'on prenait pour évidentes au tout début, il y a 20 ans, quand on commence à s'intéresser à la musique de jeux vidéo, tel compositeur est sur tel projet, il a fait ci, il a fait ça, oui, c'est super. Mais quand on commence à parler avec ces personnes ou quand on lit des interviews qui approfondissent la question, on se rend compte qu'il y a des paramètres qu'on avait complètement ignorés. Humains, tout simplement. Des tensions entre personnes, le fait que certains projets, ben, il l'a fait sans vraiment être très inspiré parce que ça ne le plaisait pas beaucoup. Ou au contraire, d'autres projets où on sent son investissement dessus parce qu'il dit « c'est le projet que j'ai préféré ». Et voilà. Et parfois, il y a des choses qui peuvent faire un peu mal au cœur. Le fait qu'il dise que quand il a travaillé sur un projet, qu'il n'a pas envie d'en parler plus parce qu'en vérité, c'est un peu une brisure personnelle. Enfin, on se sent tout de suite beaucoup plus investi émotionnellement, en fait. Et moi, personnellement, je l'ai pris de manière très positive. Ça m'a donné d'autant plus envie d'apprécier l'œuvre de Uematsu quand j'ai compris toute la part humaine qu'il y avait derrière. Et l'un des albums qui, à mon avis, est les plus significatifs, c'est l'album d'arrangement de Final Fantasy VI, qui s'appelle Grande Finale, qu'à l'époque, on a tous écouté avec plaisir ou avec déplaisir pour certains, peut-être. Mais cet album a une histoire. Et en fait, quand on ne connaît pas l'histoire de cet album, en fait, on passe presque complètement à côté de ce qui s'est passé dans la vie d'Uematsu à ce moment-là de sa vie, dans sa carrière. C'est un album dont il n'est pas du tout satisfait. Pour lui, il aimerait qu'il n'existe pas. En fait, les arrangements ne sont pas conformes à ce qu'il avait voulu. les enregistrements ont été une catastrophe en Italie, donc pour lui c'est un ratage complet. Si on ne sait pas ça, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a commencé à travailler avec un nouvel arrangeur quelques années plus tard, pourquoi il a changé de style de musique, il n'a plus refait d'album comme Grand Final après. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque, on se disait ah, tel album c'est super, ou il ne l'a pas refait après, mais voilà, c'est comme ça. Mais non, il y a une logique personnelle.
Tu soulèves un point intéressant, Jérémy, c'est que au-delà même du compositeur, généralement, dans la musique de jeux vidéo, il y a plein d'autres personnes qui gravitent autour. Ça peut être des arrangeurs, ça peut être des orchestrateurs, ça peut être simplement des techniciens, des programmeurs du synthétiseur. Ça va être énormément en fait, de métiers qui vont graviter autour de la musique de jeux vidéo, qui vont s'entrecroiser, ils vont discuter entre eux plus ou moins selon les projets. Parfois, un compositeur va être en contact régulier avec l'audio director, par exemple, d'un projet, ou au contraire avec le réalisateur directement du projet. C'est vraiment très variable. Et c'est là aussi où l'aspect humain dont tu parles, Pierre, est très important. C'est qu'en fait, il y a autant presque de façons de faire de la musique de jeux vidéo que de compositeurs. Quand nous, on aime la musique de jeux vidéo, quand on l'apprécie, quand on a envie d'en parler, d'en discuter, on la prend dans sa globalité. Peu importe si on n'apprécie pas certains genres musicaux ou si on n'apprécie pas certains genres de jeux et du coup on est moins réceptif à la musique des gens en question, c'est pas la question. C'est que malgré tout, on essaie de voir d'avoir une vision globale de la philosophie du jeu vidéo, de sa musique, etc. Mais dès qu'on va interviewer les compositeurs, ben là on va apprendre des choses comme ce que disait Jérémy vis-à-vis de Uematsu lui-même, mais aussi vis-à-vis même de leur propre approche de la composition de la musique de jeux vidéo et de comment l'intégrer même au sein de l'expérience de jeu. Je prends des exemples français pour le coup. Si vous prenez Olivier de Rivière, donc le compositeur de Remember Me, de Assassin's Creed, Freedom's Cry et de par exemple Plague Tale, il a une philosophie, donc il est très très porté sur justement sur cette dimension interactive et sur l'évolution en fait dynamique en temps réel de la musique en fonction de l'action du joueur. Il va avoir une philosophie très différente dans cette manière d'un compositeur comme Christophe Héral, qui lui est donc le compositeur par exemple de Rayman Origins, de Beyond Good and Evil, qui lui aussi est porté sur cette idée de rapport interactif entre la musique et ce qui se passe à l'écran, mais ils ont une manière de concevoir la chose qui est très très différente, et chacun en fait va aller dans son sens pour développer au maximum sa propre philosophie de la musique de jeu. Et on retrouve la même chose, c'est des compositeurs d'autres nationalités, que ce soit des compositeurs américains. J'avais interviewé pour mon livre Gary Shyman par exemple, le compositeur de Bioshock, Dante's Inferno. Mais elle a une philosophie très très différente de Hitoshi Sakimoto, par exemple, donc compositeur de Vagrant Story, Final Fantasy XII, du côté du Japon. Et donc voilà, et c'est vraiment cette pluralité des approches qui fait la richesse aussi de la musique de jeu, parce qu'il y a encore aujourd'hui, le jeu vidéo n'est pas une science exacte, c'est-à-dire qu'il y a une grammaire qui s'est construite au fil des décennies, qui a permis au jeu vidéo lui-même d'évoluer, d'avoir des bases qui sont considérées aujourd'hui comme presque immuables pour apporter cette interactivité, mais en même temps, le jeu vidéo, il a éclaté en matière de forme, en matière de représentation, en matière d'ambition même, et on retrouve exactement la même chose avec la musique de jeu, c'est qu'au fil de l'évolution du jeu vidéo, lui-même se part de nouvelles formes, et la musique de jeu vidéo doit s'adapter et doit elle-même aussi prendre le train en marche et essayer d'apporter des solutions pour aller dans le sens de cette modernité et de cette évolution du jeu.
Oui, d'ailleurs, cette improvisation totale, on le retrouve très bien dans le livre d'Aurélien, justement. C'est ce que c'est. Ils ont tous inventé, d'une manière ou d'une autre, au début, la façon dont ils allaient faire la musique d'un jeu. Les premiers chapitres du livre sont vraiment fascinants à ce niveau-là, parce qu'on se rend compte en fait, que personne n'avait les clés, personne n'avait la solution clé en main. Tout le monde a improvisé, en fait.
Je me souviens du compositeur de As versus Dem, qui est un des premiers jeux en arcade avec de la musique symphonique. Et le compositeur David Zabriskie me disait qu'en fait, qu'on l'a laissé faire dans son coin, quoi. Il était vraiment, c'est lui qui a eu l'idée de l'orchestre. Les autres, les programmeurs, ils se sont dit bon, bah, pourquoi pas. Le développeur du jeu s'est dit pourquoi pas. C'est lui qui s'est occupé de réunir l'orchestre, c'est lui qui s'est occupé d'organiser les sessions. Il a vraiment fait tout lui-même. Et quand je lui ai posé la question, mais est-ce que vous aviez l'impression de faire quelque chose de phénoménal, quoi, de quelque chose d'événementiel, il me répondait simplement bah non, j'avais juste l'impression de faire ce que j'aimais faire, quoi, c'est tout.
pour en revenir au côté humain, moi, il y a une chose que j'aimerais soulever, c'est justement le fait que bon, on écrit toujours beaucoup mieux sur la musique en discutant directement avec les personnes concernées, mais c'est un exercice qui est très difficile, particulièrement quand on écrit sur des compositeurs japonais. Je sais que ça m'est souvent arrivé de lancer des bouteilles à la mer, d'utiliser des contacts sur les sites, etc.
Elles sont toujours à la mer, les bouteilles, là.
Ah, je crois qu'elles ont atterri... pas au Japon en tout cas. Mais on a quand même des murs d'éditeurs qui vont parfois être extrêmement... ça va être très, très compliqué de contacter les compositeurs, d'avoir une entrevue. Même souvent, ils demandent aussi un droit de regard sur les questions et il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler. Même les compositeurs, après avoir quitté ces entreprises, sont toujours sous NDA la plupart du temps, donc ne vont pas avoir le droit de dévoiler quoi que ce soit sur leur travail, ce qui rend parfois très compliqué le travail de documentation. Et justement, cette approche humaine où ils n'ont pas le droit de dire ce qui s'est mal passé, où ils n'ont pas beaucoup de liberté. Je pense à un ancien compositeur de Nintendo, Tomiya, qui a composé pour Yoshi's Woolly World, entre autres, et qui a ouvertement sous-entendu sur les réseaux sociaux, mais il faut vraiment aller creuser sur son compte, qu'il avait voulu mettre toutes ses musiques en ligne sur YouTube, par exemple, pour faire son book, donc les musiques de Yoshi et puis de Kirby au fil de l'aventure, et qu'il a été lui-même striké sur ses propres compositions, et du coup, il ne peut pas en parler, il ne peut pas dire ce qu'il a fait dessus, et du coup, moi, je crois que je ne lui ai même pas demandé d'interview, parce que je pense qu'il n'a absolument rien le droit de dire, donc ça... Il y a ce petit combat à mener encore pour documenter justement le côté humain derrière les jeux.
C'est un problème qui concerne le jeu vidéo dans sa globalité de toute façon. Hein. Dès qu'on est notamment sur la sortie à venir d'un jeu, on sait que c'est des interviews promotionnelles où les gens sont limités dans ce qu'ils peuvent dire. Donc c'est vrai que ça pose problème.
Et justement, est-ce que dans la notion d'écriture de jeux vidéo, justement, est-ce qu'il n'y a pas cette notion aussi de témoignage en fait, parce que c'est il y a eu un désamour pendant longtemps aussi de ce genre-là où bah comme vous disiez en fait les compositeurs faisaient leur job en fait, il y avait pas de prestige en fait à faire de la musique de jeux vidéo. Est-ce que justement l'écriture aussi c'est pas une manière de témoigner de ça, de donner cette parole là aux gens et surtout de montrer que et de conserver en fait, parce que comme on disait effectivement dans le jeu vidéo il y a ce problème de conservation. Et est-ce que pour vous c'est important justement d'avoir ces écrits là, d'avoir ces témoignages là pour la conservation?
Oui, il y a une chercheuse, notamment Karen Collins, qui est une des premières à avoir été très importante, en tout cas en ludomusicologie, donc du côté universitaire, qui avait lancé cet incroyable projet d'interview, qui fait, je crois, 800 pages maintenant, parce qu'ils ont tout retranscrit. Et je l'avais interviewée justement pour la sortie du documentaire et des livres, du coup, où elle m'avait dit « mais il faut qu'on aille parler aux personnes, c'est très important avant que ces personnes disparaissent, parce que voilà, le jeu vidéo, à force d'être un média jeune, c'est plus un média si jeune que ça ». Donc oui, c'est fondamental de documenter les compositeurs, de documenter les créateurs, aussi de documenter les joueurs. Même c'est vrai que c'est un petit peu plus les projets sur lesquels je vais travailler dans l'avenir, de voir la perception de la musique et comment ça s'est construit.
Et justement, en fait, tu parlais d'écrire justement de documenter, donc d'écrire et de témoigner. Mais est-ce que justement maintenant la musique de jeux vidéo, notamment par rapport à ta thèse, est-ce que vous sentez vous que il y a une sorte de légitimité maintenant? Et que ça commence justement à rentrer dans les mœurs, c'est que c'est peut-être plus simple maintenant d'écrire dessus, notamment dans un domaine universitaire.
Oui.
Non, mais c'est vrai.
Je peux faire plus long,
mais
ça fait ça.
C'est vrai que non seulement on voit de plus en plus d'interviews. C'est Kayene qui en parlait, je crois, tout à l'heure dans l'entretien, où elle parlait des compositeurs maintenant qui ont même droit des making-of sur comment la musique est conçue. Bon, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans le cinéma, par exemple. Mais dans le jeu vidéo, c'est vrai que c'était assez rare. Donc ça fait plaisir de voir ce genre d'initiatives se multiplier. Et oui, bien sûr, plus les années vont passer, plus ça va devenir quelque chose en fait de normal de parler de musique de jeux vidéo, d'avoir des artistes interviewés pour en discuter, d'avoir des gens qui théorisent dessus. Donc ça va continuer à s'étendre.
Et pour vous, justement, qu'est-ce qui manquerait maintenant dans l'écriture? Qu'est-ce qui aura encore besoin en fait d'écrire sur le jeu vidéo? Qu'est-ce qui vous semble, vous, très important maintenant encore?
Aurélien, t'essaies de parler, je vais te laisser.
Non, c'était sur l'autre question, donc je réfléchis à cette question-là. Mais je veux juste sur l'autre question, en fait, je voulais dire que la musique de film avait connu exactement le même désamour. J'ai, j'ai envie de dire, que la musique de jeux vidéo et qu'il y a toujours un petit décalage. Donc je pense que maintenant que la musique de film a quand même pas mal d'écho dans les médias généralisés, et tout, ça devrait arriver aussi pour la musique de jeux vidéo à un moment ou un autre. Et c'était par rapport aussi à l'archivage des témoignages des compositeurs de musique de jeux. Là, je pense qu'il y a un enjeu crucial, effectivement, à surtout consigner avant que ce soit trop tard les paroles, les histoires de ces compositeurs des premiers temps, surtout des années 70 et des années 80. Moi, j'en ai sorti beaucoup de leur retraite, qui ne s'intéressaient plus du tout aux jeux vidéo, qui n'étaient plus du tout dans la boucle, et qui pourtant avaient des tas de choses à dire, et qui me disaient à chaque fois « Ah, mais je ne pensais pas que ça pouvait intéresser des gens. »
C'est un discours qui revient très souvent. Tu voulais dire que... C'est un discours qui revient très souvent. C'est ce que Karen Collins m'avait dit dans le cadre de la réalisation de Beep, qui d'ailleurs, avant sa sortie, je crois qu'il y a au moins 3 compositeurs interviewés, enfin 3 professionnels, parce que c'était pas que pour les compositeurs, qui sont décédés avant la sortie même du documentaire. Donc ça a fait que démontrer l'urgence. Mais elle me disait qu'à chaque fois, ils étaient extrêmement surpris qu'on ait un intérêt quelconque pour ce truc qu'ils avaient fait dans les années 70-80. Qu'en fait il faut aussi aller les chercher, aller leur parler, c'est aussi leur montrer, puis montrer aux éditeurs, aux studios qu'il y a un intérêt, qu'il y a des choses à dire qui risquent d'être perdues, surtout avec toutes les questions de secret effectivement. Donc voilà, c'est extrêmement important de faire parler ces gens, et il y a une espèce de prise de conscience très progressive, alors qui du côté éditeur c'est aussi quelque chose d'un peu commercial, parce qu'on se rend compte que la musique et tout ce qui entoure la création du jeu, ça peut aussi soutenir l'image, donc aider à promouvoir le jeu. Donc ils l'exploitent, c'est très bien. Après, il faut faire attention aussi aux discours qui vont être menés, qui peuvent facilement être contradictoires ou pas tout à fait représenter la réalité, mais c'est déjà un premier bon pas en avant.
Et donc oui, justement, donc, tout pour ce qui vous sembleriez intéressant à faire maintenant en termes d'écrit, qu'est-ce qui vous semble vraiment manquer en fait ? Est-ce qu'il y a vraiment un gros gap pour vous dans l'écriture, et qu'est-ce que vous aimeriez combler ?
Je pense que continuer à faire des biographies, ouais. Ce qu'on a ouvert avec Uematsu, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire, parce qu'on se rend compte, et on en parle là, on parle de personnes en fait, des gens, des vrais gens, des artistes en fait, parce qu'au bout d'un moment, il faut mettre un peu des mots là-dessus. Je suis désolé, jeu vidéo, c'est un art, hein, quoi qu'en pensent certains. c'est pas un débat intéressant de toute façon. Moi, je dis que c'est une forme d'expression comme une autre, voilà, donc c'est normal que ce soit des gens qui le fassent, donc il faut documenter ça. Il faut faire parler les gens qui le font d'une manière ou d'une autre. Et dans la musique de jeux vidéo, ça continue à manquer, je pense. Il faut continuer à percer là-dedans, faire parler les compositeurs. Et même si c'est très difficile à cause des questions de confidentialité dont parlait Fanny, hein, mais au bout d'un certain temps, c'est possible. Uematsu, il nous a dit des choses qu'il n'aurait probablement pas pu dire 20 ans plus tôt. Bon, ben voilà, continuons comme ça avec d'autres.
Il faut savoir qu'avec le changement du statut du jeu vidéo, parce que bon, le débat autour du fait le jeu vidéo est-il un art, c'est aussi quelque chose qui va avoir des répercussions, notamment sur le droit d'auteur, par exemple. Le fait que ça soit plus, que ça soit une œuvre collective, que ça soit pas, on en parlait à une table ronde hier, que ça relève plus du droit du logiciel, par exemple, ça permet à plus de gens de faire valoir leurs droits. Du coup, ça fait aussi que les gens qui travaillent dans le jeu vidéo vont avoir de plus en plus de revendications. On est passé d'une époque où travailler dans le jeu vidéo, pour certains, c'était limite un job de fin d'études ou même un job étudiant. Il y en a beaucoup qui ont été, comme Koji Kondo, par exemple, le compositeur de Mario et Zelda, a été recruté. Il a vu une petite annonce dans sa fac. Donc il y est allé, il a eu le poste. Et puis il ne se doutait pas une seconde que ça allait être toute sa carrière. Et donc aujourd'hui, on est passé donc de ces gens qui avaient très peu d'exigences, qui faisaient vraiment ça comme un petit boulot, à des personnes qui sortent de formations qui sont prestigieuses, qui ont des années d'expérience, qui ont une surspécialisation dans certains domaines, et qui du coup sont légitimes pour avoir des exigences, pour dire « j'ai le droit de parler de mon travail aussi ». Du coup, pour en revenir à ta question, Pierre, moi, ce qui me semble aussi urgent, en plus de continuer à faire des biographies, c'est aussi d'élargir le spectre, ne pas que s'intéresser aux figures les plus visibles, et notamment d'appuyer beaucoup sur l'aspect technique, parce que c'est celui qui est le plus difficile à perdre, notamment quand on veut commencer à parler de jeux anciens. Il y a énormément de choses. Moi, qui ai une formation en musique, par exemple, je suis une bille dans tout ce qui est un petit peu technique, technologique. Donc, j'ai forcément besoin de me reposer sur des personnes qui sont capables de décortiquer, de démonter des consoles, etc., qui peuvent m'expliquer, bah oui, non, le streaming, effectivement, ça t'empêchait de faire ça, mais il y avait un moyen de le contourner, et qui, donc, du coup, vont aussi aider à expliquer énormément de choses dans le son dont on n'a pas forcément conscience si on s'intéresse juste à l'aspect musical, créatif. Et donc, ces personnes-là, qu'elles soient dans des studios, ou même que ce soit des personnes qui ont des pratiques extérieures qui vont décortiquer le jeu vidéo, c'est très important de les écouter.
Et est-ce que justement, parce qu'on va arriver sur la fin du table ronde, est-ce qu'il y a des questions justement dans le public sur le sujet?
Bonjour, merci. Je voulais savoir quelle était votre opinion sur le fait qu'une boîte comme Nintendo, comparée à Sony ou à d'autres, verrouille complètement ces bandes originales, c'est pas disponible sur les sites de streaming, sur YouTube c'est striké sans arrêt. Comment ça se fait que eux fassent ça et pourquoi pas les par rapport aux autres?
C'est un petit peu compliqué. Honnêtement, je n'ai aucune idée et j'ose espérer que si ça prend autant de temps, c'est parce qu'ils sont en train de le faire et qu'ils ont énormément de choses à mettre en ligne. Mais c'est quelque chose que je vois moi personnellement d'un œil assez négatif parce que ça n'aide pas à conserver le jeu vidéo. Alors effectivement, ils ont édité quand même des bandes originales en version physique, mais qui étaient souvent des bandes originales qui étaient distribuées en cadeau, donc qui sont très difficiles. C'est très difficile de se les procurer. Aujourd'hui, c'est devenu des objets de collection. Donc effectivement, j'espère qu'ils vont changer de position par rapport à ça très rapidement, parce qu'ils sont un petit peu à la traîne.
Bonjour, merci pour cette discussion très intéressante. Jérémy parlait de Koichi Sugiyama qui venait d'une formation plutôt symphonique et je me demandais comment il travaillait sur NES qui est très très limité. Du coup, il faisait des partitions beaucoup plus simples de ce dont il avait l'habitude. Et peut-être que vous me voyez venir, quand il fait les concerts, est-ce que ça veut dire qu'il réécrit entièrement tout ce qu'il a fait sur NES pour le réarranger en version symphonique?
Oui. En fait, ce que Sugiyama a expliqué, c'est que sur NES, effectivement, il n'y a que trois sons primaires. Il y a deux ondes, enfin, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a deux ondes qui produisent un son assez aigu et une onde qui produit un son assez grave qu'on utilise pour les basses. Sugiyama, en fait, ce qu'il avait fait à l'époque, c'est qu'il s'était imaginé que la musique de jeux vidéo sur NES, c'était l'équivalent d'un ensemble instrumental que j'oublie à chaque fois. Il avait imaginé que c'était une sorte de quintette de vent, je crois, quelque chose comme ça. Donc il s'imaginait qu'il écrivait pour des instruments à vent. Et c'est un conseil qu'il avait donné à Nobuo Uematsu. D'ailleurs, c'est l'un des conseils qu'Uematsu a utilisé de Sugiyama qui était particulièrement utile. Et oui, une fois ensuite qu'il écrivait sa partition pour orchestre, c'était un orchestrateur parfaitement compétent de formation classique. J'imagine qu'à un moment ou un autre, sa musique, il l'avait imaginée sous cette forme complète et il s'est simplement, il l'a restituée sous forme orchestrale telle qu'il l'avait imaginée à la base. Mais je pense qu'il ne faut pas le concevoir comme l'idée que c'était dégrader sa vision. Je pense qu'à mon avis, il l'a quand même bien conçu comme quelque chose de spécifique à la plateforme.
Là-dessus, justement, j'ai lu des choses qui étaient contradictoires, à savoir que j'ai lu à la fois qu'il avait écrit en suivant les restrictions de la NES, mais aussi j'ai vu d'autres témoignages qui disaient qu'il avait livré une partition qui était beaucoup trop complexe pour la NES et que du coup ils avaient beaucoup eu de mal à intégrer ça dans le jeu, et je ne sais pas quelle est la bonne version, il faudra que je vérifie. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les exigences de ce support qui était si limité lui ont permis de se centraliser, de faire en sorte par exemple d'écrire une musique très mélodique qu'il a ensuite pu arranger et déployer à l'orchestre. Ça c'est encore une autre affaire, mais le fait que sur NES, quand on veut écrire une musique qui est marquante, globalement on a une voix, une ligne mélodique, éventuellement une ligne de basse et puis peut-être un contre-champ, et puis le reste ça va être surtout des bruitages. C'est quelque chose qui est très important de toute manière quand on écrit pour ce genre de support, et on n'a pas forcément les mêmes restrictions à l'orchestre où on peut jouer sur des textures orchestrales, prendre plus son temps. Ça c'était pas possible sur NES, donc ça forcément oui.
Mais il y a beaucoup de compositeurs qui voyaient l'écriture sur NES et sur toutes ces machines primitives qu'avec qu'une puce électronique, voyaient ça comme composer de la musique baroque. Et donc en fait, transformer du baroque en symphonique, les compositeurs, ils savent faire depuis longtemps. Donc je pense pas que ce soit très compliqué. Bien sûr, c'est du travail parce qu'il faut orchestrer tout ça. Mais c'est Yuzo Koshiro, je pense, qui disait que à partir du moment où on maîtrise le contrepoint, donc l'alliance entre les différents canaux, on peut le reproduire aussi en symphonique, c'est pas bien compliqué. Enfin, pour lui, en tout cas.
Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour ces échanges passionnants. J'ai une question peut-être un peu plus généraliste et un peu plus sociétale, si je puis dire. On parle, dans le domaine des musiques à l'image, du cinéma, et de la série télévisée, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer énormément. Je voulais savoir ce qu'il en était dans les jeux vidéo. Je voulais savoir, on parle beaucoup de compositeurs, quelle est la place des compositrices dans les jeux vidéo? Est-ce qu'il y a des études qui existent sur la question, par exemple?
Il y a une chercheuse allemande qui étudie beaucoup ça, Melanie Fritsch. Parce qu'effectivement c'est une thématique qui reste difficile et compliquée, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser qu'il n'y a pas ou très peu de femmes dans la musique de jeu, alors qu'au contraire elles ont été là dès le début.
Elles n'étaient pas créditées.
Oui, par contre, comme le reste des, comme tous les autres compositeurs, là, c'était pas un problème du fait qu'elles étaient rabaissées, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont été très actives à l'ère d'arcade, etc. Et puis qui ensuite ont en fait un peu disparu parce qu'elles ont quitté le métier. Donc oui, il y a des travaux qui sont en cours là-dessus pour mettre en valeur les travaux de toutes ces femmes justement qui sont un peu facilement oubliées.
Non, j'ai rien cherché.
J'avais l'impression que tu voulais dire quelque chose.
Non, c'était juste pour dire, par exemple, Ayane citait Yoko Shimomura tout à l'heure. Donc voilà, on a quand même certaines compositrices qui sont des grands noms de la musique de jeu. En proportion, évidemment, il y a toujours plus d'hommes, mais espérons que voilà, ça change dans les années à venir.
J'ai fait tout un chapitre sur Yoko Kanno aussi dans mon livre, et j'avais bien en tête justement de parler d'une compositrice.
Oui, j'avais une question. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette conférence et ces échanges. Merci aussi pour l'accessibilité en langue des signes. J'avais une question par rapport aux jeux vidéo en lien avec la musique. Évidemment, je me demandais, lors des situations, par exemple, de personnes sourdes, de joueurs sourds qui jouent aux jeux vidéo, comment on peut avoir des informations qui aient des liens avec la musique dans le jeu, avec l'interaction ? Parce que parfois, il y a des musiques vraiment spécialisées à telle action dans tel jeu, sauf qu'une personne sourde ne peut pas les avoir. Est-ce que vous avez d'autres solutions ou des idées de ce qui se passe en termes de solutions pour qu'on soit quand même informé visuellement du son qui a l'air dans le jeu ?
Alors là-dessus, je sais qu'il y a les studios ont de plus en plus des sections qui sont consacrées justement à la réflexion autour de l'accessibilité, que ce soit pour les gens qui ont divers problèmes, notamment qui ne peuvent pas entendre. Et je pense qu'ils essayent de combler énormément ça avec des signaux graphiques, des changements de couleurs, etc.
Ça peut être les vibrations de la manette aussi.
Voilà, il peut y avoir la notion de vibration de la manette aussi qui va entrer en compte. Alors c'est vrai que ça ne peut pas compenser l'accompagnement sonore, mais c'est quelque chose... C'est vrai que, étrangement, j'ai plus en tête des jeux qui vont exploiter le son, par exemple pour les personnes qui sont malvoyantes, mais on pense très peu aux jeux inverses. Ouais. Effectivement, c'est un sujet qu'il est très intéressant d'explorer, à mon avis.
En fait, il y a des jeux qui ont des systèmes de visualisation sonore, c'est-à-dire que le son est affiché sous forme visuelle à l'écran. Par exemple, il y a des sortes de battements colorés qui apparaissent sur les bords de l'écran pour signaler que le son vient d'un endroit ou d'un autre de l'écran. Je sais que c'est le cas dans Fortnite, par exemple. Il y a un système de visualisation sonore qui permet de se repérer spatialement, savoir dans quel côté il y a des bruits qui se produisent, et les battements indiquent quel type de bruit. Si c'est un battement répété, on sait que c'est un bruit de pas. Donc voilà, ce genre de choses existent. Mais c'est plutôt pour les bruitages que pour la musique.
Oui, souvent, effectivement, ça va se concentrer. Comme le jeu vidéo, c'est quand même un média où il y a énormément de choses qui se passent partout. Ils seront obligés de faire un choix entre la musique, entre les dialogues, entre le sound design. Donc souvent, ils vont vraiment choisir d'aller à l'essentiel, ce qui va forcément amputer une partie du jeu qui va être difficile à retranscrire. Mais peut-être que dans une des tables rondes suivantes, ils pourront en parler de manière un petit peu plus développée.
Bonjour, merci encore pour cet échange. Alors peut-être que ça a été traité au début de la conférence, je suis arrivé un peu en retard. Mais vous avez parlé à un moment que la musique de jeux vidéo s'inspirait de la musique classique, par exemple Tetris, ou alors de la variété, etc., ou de la musique de cinéma. Est-ce que le chemin inverse a lieu ? Notamment, je sais que par exemple, je ne sais pas, la musique de The Last of Us, elle est reprise dans des émissions comme Masterchef. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, des artistes de variété, de rap ou de musique plus classique vont s'inspirer de la musique de jeux vidéo, de son interactivité ou peut-être même de motifs spécifiques
à cette discipline.
Oui, bien sûr. Il y a déjà, ne serait-ce que dans le monde du rap, il y a toute la notion de sample qui permet de récupérer des extraits musicaux de n'importe quel domaine. Et c'est déjà arrivé plein de fois qu'il y ait des musiques de jeux vidéo qui soient samplées depuis même 15-20 ans maintenant. Donc c'est rien de neuf là-dessus, effectivement. Et de plus en plus, avec les générations qui évoluent, les artistes qui ont grandi avec les jeux vidéo leur rendent hommage à travers justement leur propre art. Donc ils vont s'inspirer de cette manière-là de la musique de jeu. Il y a la musique de jeu donc effectivement qui peut être utilisée dans les émissions télévisées. Ça aussi, ça date au mépris du droit d'auteur, hein, on rappelle. Mais c'est vrai que c'est très fréquent. Encore une fois, je pense que les personnes qui sont en charge de la programmation et du montage sonore ont, comme nous, grandi avec les jeux vidéo. Et donc simplement, ils ont été bercés par ça. Donc ça devient naturel pour eux. Et je pense que c'est une question vraiment de génération petit à petit, où ça va devenir naturel de s'inspirer du jeu vidéo. L'inspiration du jeu vidéo musical, elle peut être aussi dans... Récemment, j'avais vu au cinéma dans le temp track. Alors, dans les films, en fait, le temp track, c'est la musique temporaire qui est utilisée pour les montages et qui va parfois influencer justement le compositeur pour savoir de quelle est la musique attendue, justement, quel est le style de musique attendu sur telle scène. Et c'est déjà arrivé quelques fois qu'il y ait des musiques composées pour un film à partir d'un temp track qui soient des copier-coller ou des très fortement inspirés du jeu vidéo. Je vais donner un exemple récent pour que ce soit assez clair. Les Éternels du MCU, du Marvel Cinematic Universe, le film Les Éternels, l'un des thèmes emblématiques vers la fin, est un copier-coller quasiment note pour note du thème de Final Fantasy XI. Mais vraiment, c'est assez flagrant. Et quand on sait que la réalisatrice du film, donc Chloé Zhao, est très fan de Final Fantasy VII, on se dit que si ça se trouve, c'est elle qui est allée piocher dans son répertoire, qui a mis la musique d'FF11, et après, du coup, Ramin Djawadi s'est dit, allez, effectivement, je vais reprendre tout ça parce que c'est vachement bien.
On a aussi des compositeurs de jeux vidéo qui sont passés au cinéma, qui se sont mis à composer de la musique de film, et qui ont récupéré de la musique qu'ils avaient composée pour le jeu vidéo. J'ai l'exemple de Michael Giacchino, par exemple, qui avait cité des passages de Medal of Honor dans Lost, la série Lost, et qui avait aussi cité un de ses premiers jeux vidéo, Le Monde Perdu, quand il a hérité de la licence Jurassic Park, Jurassic World. Donc, ça communique entre les deux, c'est sûr.
Et je pense qu'on est obligé aussi de mentionner le clip d'Eva Jolie, dans lequel il y avait un sample de Zendarkand de Final Fantasy X. Voilà.
Bonjour. Merci pour la discussion et pour vos livres également. Je fais un lien avec une question précédente sur la traçabilité des gens et des personnes, puisque comme vous le dites, c'est hyper important. Et vous soulignez que même aujourd'hui, Genium Falcom, par exemple, pour ne pas les citer, les crédits, c'est souvent machin, sound team. Dans le bouquin de Fanny, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont mentionnés nommément et sur leur travail spécifique. Quels sont vos outils, justement, pour faire ce travail de retrouver les gens qui travaillent dans les entreprises japonaises, notamment?
Il y a énormément de ressources en ligne qui ont été créées par des fans. Il me semble qu'il y a même un site qui s'appelle Kyoto Report, où c'est des gens qui, leur but, c'est de tracer toutes les personnes qui travaillent chez Nintendo, même celles qui n'ont aucune existence en ligne. Alors je ne sais pas trop comment ils font, ni même si c'est très légal, mais effectivement, on va avoir des sources qui vont un petit peu plus approfondir. On va avoir des gens, par exemple, en tout ce qui est purement musical. Je sais que dans mon livre sur Zelda, j'ai énormément utilisé VGMDB, qui est une source d'informations incroyable, où là, ils vont compléter au fur et à mesure les disques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de données qui va répertorier, en fait, un très grand nombre de disques, mais c'est fait de manière très sérieuse, avec les ISBN, avec les cotes, et puis ils vont scanner les jaquettes, ils vont reproduire les livrets, ils vont très souvent traduire les livrets, ce qui est extrêmement important, vu que la plupart des bandes originales ne sont pas traduites. Et dans de nombreux cas, comme par exemple la musique des Zelda, particulièrement The Wind Waker, quand on a commencé à avoir beaucoup de compositeurs, où donc à la fin on avait juste 5 à 10 noms, et puis aucune idée de qui avait fait quoi, ils sont allés chercher dans les interviews officielles, éventuellement dans les game conferences qu'il y a pu avoir, mais aussi les livrets de partitions qui ont été édités au Japon. Ils sont vraiment allés pister tout ce qu'ils pouvaient, et ils font une espèce de travail de puzzle où ils centralisent tout en mettant des notes, en disant telle piste, aujourd'hui on peut dire qu'elle a été composée par telle personne, parce que dans la version guitare pour enfants de Wind Waker, dans la piste, il est cité en tant que compositeur, donc on sait que c'est lui. Mais il y a encore un énorme travail à faire là-dessus. Dans l'idéal, il faudrait effectivement pouvoir contacter directement Nintendo. C'est toujours la meilleure solution de s'adresser directement aux personnes. parce que parfois, je pense que Jérémy, tu seras d'accord avec moi, dans l'industrie, on se retrouve avec des noms mis dans des génériques et même les gens, quand tu les contactes après, te diront qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils fabriquent là. Donc malheureusement, il faut un petit peu recoller les morceaux. Il n'y a pas de bonne réponse, mais il faut de toute manière être très prudent avec les sources qu'on utilise et favoriser le contact direct quand c'est possible.
Il y a une source qui est assez improbable, mais qui est finalement assez utile. C'est l'équivalent japonais de la SACEM, qui s'appelle la JASRAC, J-A-S-R-A-C. La SACEM, c'est un organisme auprès duquel... JASRAC, J-A-S-R-A-C. Donc c'est l'équivalent de la SACEM, c'est-à-dire un organisme qui gère les droits des musiques pour les ayants droit. Et il se trouve que comme ça doit être déposé officiellement, il y a certains éditeurs qui donnent les noms des compositeurs quand ils versent leurs informations dans la JASRAC, choses qui parfois ne sont même pas précisées dans les albums de musique de jeu ou dans les crédits. Et ça a aidé pour certains jeux à avoir la liste complète de qui a composé quoi, qu'on n'avait pas pu voir ailleurs. Par contre... C'est tout en japonais, le site de la JASRAC.
Il y a des guides sur comment faire des recherches, moi, voilà. J'étais servi à une époque.
Mais bon, c'est quand même pas très facile de trouver exactement qui a composé quoi. Voilà.
S'il n'y a plus de questions, on va arrêter là cette table ronde. Merci à vous cinq. On peut les applaudir, oui.
Merci. Merci.
Merci à vous cinq, je le disais. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de feuilleter les ouvrages de nos quatre invités, c'est mal, premièrement. Mais vous pouvez toujours vous rattraper en allant à la bibliothèque, puisque à l'occasion du festival, bien sûr, puisque nous sommes des bibliothécaires, nous avons sorti les livres en question. Ils sont disponibles au niveau 1, là où vous pourrez également retrouver les stands de jeux dont je vous parlais tout à l'heure, grâce au petit ticket que vous trouverez à la sortie.